Bonjour à tous, merci d'être venus et merci à notre président du conseil régional de l'Église protestante unie de France, le pasteur Bertrand de Cazeneuve, d'avoir proposé de présider cette... on est encore en train de se demander comment on appelle ça alors, cette installation en mission, on va dire ça comme ça. Voilà, mon installation en mission en l'occurrence. Pour ceux qui ne seraient pas, et j'en vois quelques-uns, qui ne seraient pas tout à fait familiers avec nos livres, quand je parle de spontané, ça se trouve dans le petit livre bleu. Et c'est aussi au fond, à la fin du petit livre bleu, que vous trouverez la confession de foi. Quand on parle de cantiques, ils sont également affichés là, ils se trouvent dans le recueil « Nos cœurs te chantent ». Donc, après l'annonce de la grâce, vous pouvez déjà ouvrir le recueil de spontané à la page 29, puisque nous chanterons « Nos cœurs te chantent ». Voici venu le temps de la halte qui invite à l'essentiel, sans artifice ni faux semblant, pour accueillir la nouveauté de Dieu dans nos vies. Voici venu le temps du culte qui libère nos journées de l'inutile, du superflu, qui nous permet de rechercher la présence de Dieu loin des sécurités toutes faites. Nous voici rassemblés jour de joie pour l'Église. Seigneur, donne-nous ton esprit, qu'il se saisisse de chacune et chacun de nous et nous saurons découvrir dans le monde les signes de ta présence, qu'il bouscule notre façon de penser, et avec lui nous ferons toutes choses nouvelles. Et avec lui nous recevons ce matin la grâce et la paix. Je vous invite à vous lever pour chanter le spontané, page 29. Et nous restons debout car nous allons louer le Seigneur et c'est Gauthier de l'école biblique qui va nous entraîner dans cette louange.
Louons le Seigneur. C'est bon ? Louons le Seigneur. Louons ensemble le Seigneur pour tous ceux qui te donnent un visage en répandant ton amour dans le monde. Seigneur, nous te disons merci. Pour tous ceux qui te donnent des mains en luttant contre la souffrance, la faim, la pauvreté et l'isolement, Seigneur, nous te disons merci. Pour tous ceux qui te donnent une bouche en dénonçant les guerres et toutes les violences faites aux hommes, en nous enseignant à préserver la terre, Seigneur, nous te disons merci. Pour tous ceux qui te donnent des yeux en admirant chaque possibilité d'amour dans le cœur des hommes et des femmes, Seigneur, nous te disons merci. Pour tous ceux qui te donnent un cœur en accueillant les pauvres et les faibles, les migrants et les opprimés, Seigneur, nous te disons merci. Pour tous ces signes d'espérance, nous t'aimons et te louons. Amen.
Amen. Nous prenons le cantique 252.
Éternel.
Alors, je crois que c'est le moment où les bancs se vident, enfin, et même les chaises, puisque l'école biblique, avec ses animateurs au deuxième étage. Merci beaucoup pour votre présence jusqu'à présent et continuez à penser à nous là-haut. Et évidemment, les autres, les grands, sont invités à s'asseoir.
Nous écoutons maintenant ce que Dieu attend de nous. Et voici ce que Jésus-Christ disait à ses disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et puis dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul écrivait, mais comme les paroles de Jésus-Christ qui nous ont été transmises dans l'évangile selon Jean, ces paroles sont aussi pour nous aujourd'hui. Quant à vous, vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement, aime ton prochain comme toi-même. Nous chantons la première strophe du cantique 284, ta volonté Seigneur mon Dieu, et nous prendrons les strophes 2 et 3 ensuite. Volonté, Seigneur mon Dieu, viendra ta sagesse. De vous asseoir. Humblement, nous confessons nos fautes à Dieu pour lui présenter nos vies, ses contradictions, nos fardeaux. Nous prions. Notre Dieu, nous avons souvent entendu ta parole, nous l'avons peu écoutée. Nous avons beaucoup prêché la liberté, mais nous l'avons peu vécu. Nous avons appelé à la paix, mais nous l'avons peu mise en œuvre. Nous avons réclamé la justice, mais pas renoncé à chercher notre avantage. Pour n'avoir pas écouté ta parole, pour n'avoir pas vécu en homme et femme vrais, pour n'avoir pas suivi Jésus-Christ, nous demandons ton pardon, Seigneur, à cause de Jésus-Christ. Amen. Et en restant assis, nous chantons la deuxième strophe.
Aigne-moi à discerner l'ombre de ton
Le Christ est une parole qui rend libre. Elle a le pouvoir de faire advenir ce qui n'était pas. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Au lieu de la tristesse, sa consolation. Au lieu de l'isolement, sa présence. Au lieu des ténèbres, sa lumière. Au lieu de la mort, sa justification. La parole du Christ est certaine et digne d'être reçue avec confiance, alors que ce matin, chacune et chacun de nous éprouve la douceur et la force de ce pardon de Dieu dont rien ni personne ne peut nous séparer. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever et à ce que nous disions ensemble la déclaration de foi de l'Église protestante unie de France que vous trouverez dans les livrets bleus, qui est un extrait de cette déclaration de foi de l'Église protestante unie de France à la fin du livret bleu. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse, de la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en paroles et en actes. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes, inquiétudes existentielles, ruptures sociales, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Nous chantons la troisième strophe de ce cantique 284. Nous allons maintenant accueillir liturgiquement Catherine Axelrad pour cette mission de cette année au foyer de l'âme, mission pastorale. Alors deux mots de présentation, mais vous connaissez déjà pour un certain nombre d'entre nous Catherine, et puis d'autres sont venus pour la soutenir, l'accompagner, particulièrement en ce jour Et puis vous aurez encore le temps de faire, bien sûr, toute l'année connaissance. Disons que Catherine, après une carrière de prof, dans l'enseignement, a commencé des études de théologie à l'Institut, à la Faculté de théologie protestante de Paris, tout en faisant beaucoup d'autres choses, je crois, si j'ai bien compris, de l'écriture, aussi toute une carrière, on peut dire comme ça, un parcours artistique, culturel. Elle a été accueillie dans l'Église protestante unie de France, dans la paroisse de Pantemont-Luxembourg, où elle faisait aussi où elle avait des activités de catéchète et d'animation. Et puis, à l'issue de son master en théologie, elle a été chargée de mission pastorale dans la paroisse de Choisy-le-Roi, et ce pendant 3 ans. Et c'est avec beaucoup de reconnaissance que nous pouvons lui dire, après ces 3 ans de mission pastorale à Choisy qui ont été bien utiles à l'Église, qu'elle peut être accueillie cette année au foyer de l'âme pour une nouvelle mission pastorale. Nous le faisons d'autant plus que l'Église protestante unie de France est en réflexion, en cheminement à propos de, pour inventer des nouveaux ministères pour demain au service de l'Évangile de Jésus-Christ dans nos communautés. Et l'expérience de Catherine a choisi le roi et celle qu'elle va avoir au foyer de l'âme, et qui d'ailleurs pour celle de choisi le roi s'est concrétisée par son mémoire de maîtrise sur cette expérience, sera très utile pour notre Église qui va cheminer dans ses synodes prochains sur la mise en place dans notre Église de nouveaux ministères. J'ajoute aussi pour cette journée, que ce matin, que Catherine est accompagnée par son mari Jean-Loup Bourget qui est là. J'invite maintenant les membres du conseil presbytéral qui sont présents à venir entourer Catherine pour la prière d'imposition des mains qui suivra le temps d'engagement. Et je crois que nous excusons. La présidente Valérie Lobry qui est à l'étranger pour son travail en ce moment. Ma sœur, toi qui es appelée à cette mission pastorale au foyer de l'âme, tu rassembleras la communauté chrétienne autour de la parole de Dieu et dans la célébration du baptême et de la scène, afin que par l'Évangile, elle soit nourrie, édifiée, envoyée sur les pas du Christ, disposée à accueillir et à écouter. Tu seras auprès de chacune et chacun le témoin de l'amour exigeant de Dieu et de son pardon qui libère. Tu garderas secrètes les confessions que tu recevras. Avec le conseil presbytéral, tu seras au service de l'unité du corps du Christ et de sa mission. Tu discerneras, encourageras les ministères que Dieu donne à son Église. Est-ce bien là ce que tu veux ?
Oui, je le veux. Que Dieu me soit en aide.
Je vous invite à la prière d'imposition des mains. Je précise que l'imposition des mains n'est pas un geste magique, mais bibliquement et depuis très longtemps, comme le geste de la bénédiction, c'est un geste d'accueil, de reconnaissance et d'envoi. Je vous invite à la prière. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, accorde et renouvelle ton Saint-Esprit à notre sœur, que nous recevons dans sa charge de mission pastorale au foyer de l'âme et dans ton Église. Accomplis ta force dans la faiblesse de ta servante, garde-la humble, fidèle et courageuse pour annoncer ton évangile sans être retenue par la crainte des hommes ou poussé par le désir de leur complaire. Donne-lui de savoir écouter et comprendre. Accorde-lui les dons nécessaires à l'exercice de cette mission. Amen. Église du foyer de l'âme, Église du Christ, réjouis-toi pour les serviteurs et les servantes qui te sont donnés. Et toi, Catherine, tu n'es pas seule. Conseil presbytéral et tous les ministères locaux, et puis tous ceux qui participent à la vie de cette Église et qui prennent part à l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur est fidèle. Et nous chantons le cantique 246, que la moisson du monde est grande.
Nous prions avant d'entendre les Écritures. Pour qu'elles deviennent et demeurent pour nous paroles de vie. Seigneur, nous sommes assemblés ce matin pour recevoir ta parole et pour l'annoncer, pour en nourrir notre recherche de ta présence en nos vies et dans le monde. Pour que les Écritures deviennent et demeurent pour nous paroles de vie, toi qui es venu nous rejoindre dans notre humanité, nous t'en prions, éveille nos esprits et ouvre nos cœurs dans ce chemin de foi où nous avançons ensemble. Amen.
Alors dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 55, nous lisons les versets 6 à 9. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il revienne au Seigneur qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voies ne sont pas mes voies. Déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 8, nous poursuivons sur les versets 27 à 33. Jésus sortit avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. En chemin, il se mit à demander à ses disciples : Au dire des gens, qui suis-je ? Ils lui dirent : Pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. Lui leur demandait : Et pour vous, qui suis-je ? Pierre lui dit : Toi, tu es le Christ. Il les rabroua pour qu'ils ne disent rien à personne à son sujet. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il se relève 3 jours après. Il disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer. Mais lui se retourna, regarda ses disciples et rabroua Pierre. « Va-t'en derrière moi, Satan, lui dit-il. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. Seigneur, ta parole est lumière et vérité, permet qu'elle éclaire nos chemins. »
Je vous propose que nous chantions ensemble le psaume 89. Alors nous n'allons pas tout chanter, il est dans le recueil rouge. Vous pouvez vous lever pour le chanter. Et nous allons chanter les strophes 1, 2, 5 et 6. Ce texte de l'évangile de Marc que nous venons d'entendre, nous l'avons entendu parce qu'il fait partie des lectures qui nous étaient proposées pour ce dimanche dans un grand nombre d'églises chrétiennes, ce qu'on appelle les lectures du jour. Alors vous savez que dans l'Église protestante unie de France et en particulier dans les paroisses réformées, nous ne nous sentons pas du tout obligés de prendre comme sujet de prédication ces textes dits du jour. Et d'ailleurs, et en particulier ici, nous le faisons rarement. Mais Bien que ce texte ne soit pas du tout évident ni à entendre ni à commenter, il est tellement fondamental que tout en sachant que je ne pourrais pas l'explorer en détail, j'ai pensé que c'était tout simplement pas possible de ne pas de passer à côté, de ne pas en parler, surtout aujourd'hui. Et si j'ai choisi, en revanche, en première partie, les versets d'Ésaïe que Yann nous a lus juste avant, c'est parce que je suis sûre que vous l'avez remarqué en entendant les textes l'un après l'autre, il me semble que cette première lecture peut éclairer de manière très positive notre compréhension de la seconde. Alors d'abord, dans ce texte d'Ésaïe, même si on ne tient pas compte du contexte historique et n'en tenons pas compte dans un premier temps, les deux premiers versets, « Cherchez le Seigneur pendant ou tant qu'il se laisse trouver » ou même « puisqu'il se laisse trouver ». Invoquez-le tant qu'il est proche. Ces deux injonctions répondent totalement à notre propre questionnement, notre questionnement intime sur la foi. La foi, recherche de Dieu, recherche qui peut donner un sens à notre vie. Ce texte nous encourage à la pratiquer autant que nous le pouvons. Mais il nous dit aussi deux choses fondamentales. L'objet de cette recherche, quelque chose de l'ordre d'une proximité avec Dieu. Cette proximité dépend certes de notre recherche, mais elle dépend d'abord du Seigneur lui-même. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, pendant qu'il est proche. Et d'un coup, l'autre élément important s'entend en filigrane. Il faut d'autant plus profiter de l'occasion que ces moments sont rares. Il y a bien des moments, et nous le savons tous, même si l'obscurité n'a pas la même durée ni la même intensité pour tous, des moments très fréquents où le Seigneur ne se laisse pas trouver du tout, des moments où même quand nous parvenons à croire, c'est-à-dire à le chercher vraiment, nous avons l'impression qu'il est très loin. Et c'est tout à fait rassurant, pour ne pas dire encourageant, de constater que ceux à qui Ésaïe s'adressait, et sans doute Ésaïe lui-même déjà, vivaient souvent aussi dans ce sentiment d'obscurité et d'abandon. Alors maintenant, en fait, si on regarde les circonstances, ce qu'on croit savoir, ce qu'on sait à peu près des circonstances de la création de ce texte, eh bien, les fils d'Israël avaient eu pendant de longues années, et en particulier depuis la chute de Jérusalem en moins 587 et la déportation à Babylone les années suivantes, ils avaient eu toutes les raisons de se sentir abandonné. Mais voilà que plus de 40 ans après cette catastrophe, qui n'était pas une extermination, mais qui pouvait déjà ébranler la foi du peuple juif, le texte est produit par celui qu'on appelle, en jargon théologien, le Deutéro-Ésaïe, le deuxième Ésaïe, celui qui s'exprime presque 200 ans après le premier, dans la deuxième partie du livre. Le livre dit du prophète Ésaïe est en fait en trois parties. Le Deutéro-Ésaïe s'exprime dans la deuxième partie du livre et dans les chapitres 40 à 55. Donc le texte qu'on vient d'entendre, c'est justement la conclusion, fait partie de la conclusion de cette deuxième partie du livre d'Ésaïe. Et qu'est-ce qu'il dit, le Deutéro-Ésaïe ? Il dit, pourquoi il écrit comme il écrit ? La libération que les Israélites n'espéraient plus approche. Le roi perse, Cyrus, est entré dans Babylone en triomphateur et conformément à sa politique de despote, on ne va pas dire éclairé, c'est peut-être un anachronisme et un contresens, mais au moins de despote relativement tolérant, il va faire proclamer aux captifs la libération. Il va permettre à ceux qui le désirent de rentrer chez eux et à tous de pratiquer leur culte. La libération donc approche. Dieu est proche pour Ésaïe. Et Ésaïe dit aussi qu'il faut maintenant le chercher, et peut-être le chercher davantage avec son cœur plutôt que par des sacrifices. Dieu est proche parce que son intervention est imminente. Et maintenant qu'il est proche, il faut absolument, c'est un impératif, se mettre en marche et le chercher. Et à ceux qui commenceraient à pinailler, peut-être tout simplement parce qu'ils n'ont pas très envie de reprendre la route, qu'ils ne sont pas si mal installés, à ceux qui s'indigneraient que l'intervention de Dieu en faveur de son peuple se fasse par l'intermédiaire d'un roi étranger, et il y en a, le Deutéro Ésaïe explique qu'ils ne sont pas capables de comprendre, qu'ils sont limités par leur condition humaine, une condition qui les maintient dans un état d'esprit terrestre, pédestre. Un état d'esprit tellement éloigné de la transcendance divine qu'il risque même de les entraîner à s'opposer à Dieu. Et d'une certaine manière, on l'a entendu, c'est également ce que Jésus reproche à Pierre, et avec quelle dureté. Va-t'en derrière moi, Satan. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. Pierre, qui a essayé de le faire taire après avoir entendu l'épouvantable annonce de la passion. Je vous propose d'écouter comment Calvin commente la scène dans sa belle langue du XVIe siècle. Les disciples étaient comme en suspens, abreuvés de vaines espérances, attendant le point et l'heure à laquelle Christ manifesterait soudainement la gloire de son règne. Mais Jésus avait alors montré qu'il lui fallait commencer son règne, non point avec grande pompe, magnificence et richesse, non point avec applaudissement du monde, mais par une mort ignominieuse. Or, les disciples ne pouvaient avoir chose plus difficile à faire que de surmonter un tel scandale. Quant à l'ignominie de la croix, ils n'en avaient pas la moindre idée. Une annonce aussi était pour eux fort étrange, celle de la réprobation par les anciens et les scribes qui avaient le gouvernement de l'Église, d'où il est aisé de conclure combien cet avertissement leur était nécessaire. Alors Calvin brille rarement par la bienveillance, en tout cas c'est souvent le sentiment qu'on peut avoir. Mais ici, j'ai quand même l'impression qu'il a été sensible à la dureté apparente et réelle de l'attitude et des mots de Jésus, et qu'il s'est senti obligé de les expliquer, sinon de les justifier. Et aujourd'hui encore, nous non plus, l'ignominie de la croix, comme on dit, nous ne l'acceptons pas. Nous n'en avons pas la moindre idée, pour citer Calvin. Aujourd'hui encore, de nombreux théologiens continuent à s'interroger sur ce texte et s'opposent, harmonieusement, mais s'opposent quand même, sur le sens de cette annonce contrastée de la croix et de la résurrection de Jésus. Est-ce qu'on aurait encore de nouveau affaire à cette idée ancestrale, presque préhistorique, cette idée si longtemps répandue dans les églises et qu'on peut encore entendre à certains endroits aujourd'hui, cette idée d'un Dieu qui exigerait un sacrifice, et ici un sacrifice humain, un sacrifice pour calmer sa colère? Est-ce que la croix n'annonce pas plutôt le nouveau visage de Dieu, celui d'un Dieu qui s'offre aux hommes en acceptant tout de leur part, y compris leur cruauté. Je ne souhaite pas répondre aujourd'hui, d'abord parce que je n'ai pas la réponse. On peut la chercher ensemble. Et je pense que nous aurons d'ailleurs l'occasion cette année de nous interroger ensemble sur le sens de la croix, par exemple pendant le carême. Et surtout parce que je voudrais simplement vous proposer deux réflexions personnelles pour accompagner et conclure notre lecture d'aujourd'hui. La première, c'est que les évangiles nous renseignent énormément sur la vie et les problèmes vécus ou discutés par les communautés dans lesquelles, pour lesquelles, ils ont été rédigés. Cette scène, qu'on retrouve dans les évangiles de Matthieu et de Luc, sous des formes un peu plus développées et pour cause. Oui, bien sûr, d'une manière ou d'une autre, cette scène a probablement eu lieu. Oui, Jésus a probablement dit des paroles telles ou proches de celles qui nous sont rapportées. Mais s'il y a une chose que je crois avoir comprise pendant les 3 années de ma mission précédente, c'est que les rédacteurs des évangiles avaient probablement aussi dans leur communauté une responsabilité de type pastoral. Et quand ils décidaient de raconter quelque chose, c'était sûrement à cause de témoignages, à partir de témoignages, des témoignages plus ou moins authentiques, retravaillés, mais bien sûr des témoignages, mais c'était peut-être souvent aussi pour répondre aux problèmes qui se posaient dans leur communauté. Par exemple, pour prendre un exemple très différent, quand l'évangile de Jean raconte l'histoire de la femme adultère, quelle que soit la réalité historique de cet épisode, on peut aussi se demander si celui qui a écrit le texte n'a pas été confronté à un problème du même genre et s'il n'a pas écrit l'épisode aussi de cette manière pour en finir avec la lapidation. En tout cas, c'est bien une possibilité. Eh bien là, pour moi, c'est un peu pareil. Dès le début, dans les premiers siècles, un grand nombre de personnes refusent le scandale de la croix, le jugent incompatible avec l'affirmation de la divinité du Christ. C'est un sujet de débat qui va perdurer dans l'Église, et puis en dehors d'elle, après le IVe siècle, quand ces questions même, et des réactions telles que celles de Pierre, seront considérées comme des hérésies. Et c'est un débat qu'on retrouvera même pendant longtemps, y compris sur les terres imbibées de ces hérésies, dans les textes qui ont été peut-être en partie à l'origine de la rédaction du Coran. Et si le sujet était déjà discuté dans les premières communautés, et bien sûr avec les Juifs, raconter cette scène dans l'Évangile, c'était déjà aussi pour le rédacteur, les rédacteurs, une manière de déminer le terrain, de répondre aux questionneurs, de leur dire « D'accord, ta question est humaine. D'ailleurs, notre apôtre Pierre a eu la même réaction. Mais regarde comment le Seigneur lui a répondu et ne deviens pas Satan à ton tour. » Et la deuxième et dernière réflexion personnelle que je voudrais vous proposer porte sur la réponse spontanée de Pierre. Toi, tu es le Christ. Le Christ. Au-delà du possible malentendu politique. Je crois que cette réponse a surtout à voir avec la question qui habitait Ésaïe. L'éloignement entre la terre et le ciel. L'incommensurable distance entre les voix de Dieu et les nôtres. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est que d'une manière ou d'une autre, selon chacun, nous souffrons de cette distance et nous cherchons comment l'abolir. Nous cherchons à nous rapprocher de Dieu tout en sachant que nous ne pourrons pas y parvenir par nous-mêmes et peut-être pas y parvenir du tout. Or, aujourd'hui, C'est quand même un peu pour moi ce qu'on appelle la minute de vérité. Alors vous trouvez peut-être que cette minute s'éternise. Mais comme je l'ai dit au début, si je vous ai proposé d'entendre ces textes ensemble, c'est que pour moi ils se répondent. Toi, tu es le Christ. Cette réponse de Pierre nous projette dans l'attente messianique enfin comblée, dans un temps où le Seigneur, tant recherché, se laisse enfin trouver. En Jésus, le Christ, Pierre voit disparaître cette distance incommensurable entre la terre et le ciel qui écartèle les humains depuis toujours, qui les force à lever la tête pour chercher. Et même dans son incompréhension indignée, et même lorsque l'annonce de la passion, puis le rabrouement de Jésus sont à la limite du supportable, non seulement Pierre va rester, mais il va continuer à suivre et continuer à chercher. Parce que pour lui, comme pour nous, de manière différente, mais bien sûr toujours dans l'incompréhension et les reniements, toujours, dire que Jésus est le Christ, dire à Jésus qu'il est le Christ, c'est déjà le suivre. Et c'est encore et toujours le chercher. Amen. C'est le moment des annonces. Est-ce que quelqu'un du conseil presbytéral souhaite... Sinon, je peux les faire. Je crois que c'est ce qui... Oui ? Bon, d'accord. Bon, alors, je vais pas vous raconter ce qui s'est passé cette semaine parce qu'on n'a pas le temps. Et je vais faire les annonces pour la semaine qui vient et la semaine suivante. Car ce n'est pas moi qui fais le culte la semaine prochaine. Vous êtes invités à venir nombreux écouter Didier, qui est membre du conseil presbytéral. Mais donc, je vais faire les annonces pour cette semaine et la semaine suivante. Donc, cette semaine, mardi prochain, mardi soir, il y a la première réunion de l'année du groupe œcuménique. Ceux d'entre vous qui en font partie, certains sont venus, je pense, m'accompagner, je les en remercie beaucoup. Et donc ceux d'entre vous qui en font partie sont invités à venir. Il y aura peut-être des réorganisations, des réorientations, un dynamisme avec d'autres personnes, puisqu'il y a des changements dans l'équipe de responsables. Et donc, voilà, et c'est donc à 19h30, mercredi, qu'est-ce que je raconte ? C'est à 19h30, oui, mais mardi, c'est bien ça ? J'ai ici quelqu'un ? Oui, c'est bien ça, bien, merci. La semaine prochaine, donc, merci de le noter déjà, le groupe d'études bibliques, pas celui du déjeuner du mardi, on m'avait demandé, avec Patrice Rollin qui sera en octobre, hein, mais le groupe d'études bibliques du mercredi soir à 19h30 reprend, et nous allons travailler cette année, on va un petit peu changer, donc on va travailler sur les figures de femmes dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, et en particulier Esther et Ruth. Je suis sûre que ça ferait plaisir à beaucoup de personnes de l'assistance qui habitent un peu loin malgré tout de se joindre à nous. Donc, merci. N'hésitez pas à venir. Ça ouvre de nombreuses perspectives, y compris en ce qui permet, en ce qui concerne, excusez-moi, je suis un petit peu émue, en ce qui concerne l'étude de texte, les différences entre la version hébraïque et la version grecque de ce texte. C'est absolument passionnant. Voilà. Ça, c'est mercredi 26 à 19h30. Et la personne qui m'avait répondu quand j'ai envoyé le mail en juin a proposé qu'on fasse un petit dîner avant. Donc, on apporte ce qu'on veut et puis on verra bien en même temps. Voilà. Et le 28, le groupe Théopsycho, qui s'est appelé, je crois, à une époque Théopsycho, puis Psychanalyse et Foi, et qui s'appelle de nouveau Théopsycho, se réunit donc autour, à la même heure et dans les mêmes conditions, autour d'un travail sur l'Évangile. Pour l'instant, on va commencer comme ça, les guérisons dans l'Évangile de Marc au chapitre 5, en lecture miroir avec le livre de Marie Cardinal, dont certains d'entre vous se souviennent certainement, les mots pour le dire. Donc voilà, ça c'est pour la semaine prochaine. Et enfin, le culte de rentrée, on m'a bien demandé de vous le rappeler, de toute façon j'aurais pas oublié, le culte de rentrée de la paroisse a lieu dans 2 semaines, le 30. Il sera, si tout se passe bien, puisque je verrai les catéchumènes pour la première fois, je les rencontrerai à 9h, mais je souhaite qu'ils participent au culte, donc c'est un petit peu aléatoire, mais j'espère que tout se passera comme nous le souhaitons. Donc il sera animé en partie par les jeunes, et à la fin de ce culte, d'abord il y aura ceci pour les parents de l'école biblique, il y a aussi école biblique, et les jeunes seront présents, il y aura les inscriptions, une rencontre de l'école biblique à la fin du culte, les inscriptions et un déjeuner commun pour lequel je crois qu'il est souhaitable à la fois de s'inscrire et d'apporter à manger. On vous le redira, je pense, plus précisément dimanche prochain. Mais je crois qu'il y a un cahier d'inscription que Teresa est en train de montrer là au fond. Voilà. Et donc ça, c'est pour le déjeuner. Et pour ma part, j'en profite juste pour vous remercier de votre présence, de votre soutien, de votre prière. et de vous dire qu'à la fin du culte, il y a, vous êtes invités, et j'espère que vous aurez le temps d'y participer, à un petit pot amical dans la première pièce à droite avant de sortir. Voilà. Merci beaucoup, et c'est maintenant donc le moment de l'offrande. L'offrande pendant... Ah, il y a quelque chose, pardon, j'ai oublié quelque chose, oui ? Ah oui, bien sûr, il y a Évangile et Liberté. Merci beaucoup, heureusement que vous êtes là. Et oui, oui, et moi aussi d'ailleurs. Oui.
Je suis coordinatrice des cours de français qui ont lieu ici et dans les deux pièces, le mardi et le vendredi de 19h30 à 21h30. Et à ce titre, le mardi et le jeudi, pardon, et nous accueillons volontiers des remplaçants parce que nous avons ce qu'on appelle des moniteurs, pour ne pas les appeler professeurs, mais nous avons soit des malades, soit des gens qui partent se balader. Et donc, si vous vous sentez à venir faire des remplacements, on vous mettra au courant de tout. Vous êtes les bienvenus, vous venez me voir à la fin.
Les inscriptions pour cette année auront lieu le 27, d'accord. Et le premier cours est le 2 octobre. Et enfin, oui, excusez-moi d'avoir... je me demande comment j'ai pu, j'y serai bien sûr. Il y a la première réunion de l'année du groupe de réflexion Évangile et Liberté avec le pasteur Laurent Gagnebin aura lieu samedi prochain, samedi 22, de 10h30 à 12h30, ici, si je ne me trompe pas. Et donc maintenant, c'est vraiment le moment de l'offrande. Et pendant l'offrande, nous avons l'habitude de chanter. Et donc, nous chantons le cantique 153, les strophes 1, 5 et 6. Vous pouvez vous lever. Oui, c'est quand même plus commode, ne serait-ce que pour sortir l'argent de sa poche. on peut quand même prier avant l'offrande. Ça me paraît un minimum. Seigneur, merci de nous permettre de donner de notre temps, de donner de notre vie, de donner aussi de notre argent. Nous avons besoin de notre Église et notre Église a besoin de nous pour vivre. Amen. Unissons-nous dans la prière fraternelle. Ô Dieu, nous nous tournons vers toi. Si tu discernes en nous quelque générosité, augmente-la par ta grâce. Lorsque notre désir de renouveau s'affaiblit, ravive-le par ta vérité et la créativité en notre cœur. Approfondis-la par ta sagesse. Partout où surgit un espoir de réconciliation, permets que ta puissance nous unisse. Suscite en nous un esprit de sincérité, la passion de la justice et le courage de nous engager sur ta voie prophétique. Tourne vers nous ta face, ô Dieu, et insuffle-nous la vie de ton esprit. Nous aspirons à la justice, nous aspirons à la paix, à la fin des oppressions, afin que des chants de soulagement et d'amour montent vers toi. Donne-nous assez de courage et d'espérance pour élever bien haut la flamme de l'espérance aux quatre coins du monde. Répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent. Toi, prince de la paix, redonne aux humains le goût de la paix. Reçois cette prière, Seigneur, comme une forme d'engagement de notre part car nous savons que tu as aussi besoin de nous. Que ta lumière soit pour tous une source de joie et d'espoir, comme la prière que Jésus nous a donnée et que nous allons maintenant dire ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous maintenant notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Frères et sœurs, cherchez le Seigneur quand il est proche, invoquez-le. Et nous entendons que cet appel, c'est un envoi à rechercher le Seigneur qui s'est donné en Jésus le Christ, alors même que tout semblait dire le contraire, jusqu'à la croix. Et c'est une invitation pour nous, pour notre vie spirituelle, pour notre vie communautaire, et en dehors du temple, de tout lieu sacré, à cheminer avec nos contemporains, les hommes et les femmes de notre temps, sachant que le Seigneur s'est approché de nous et que nous pouvons vivre avec lui et vivre avec celles et ceux qui nous sont donnés, nos frères et nos sœurs en humanité. Que ce soit là notre chemin, promesse et un engagement de notre part.
Recevez la bénédiction de la part du Seigneur.
Le Seigneur nous bénit et nous garde. Le Seigneur tourne vers nous sa face et nous donne sa paix. Amen. Et nous prenons le spontané 30, page 30, pardon. Je commence par Alléluia. Alors nous nous rasseyons pour écouter l'orgue et après nous nous retrouvons au pot de l'amitié.